Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 2022 chez Passé Composé. Harald à la dent bleue viking, roi chrétien, est une biographie historique de Lucy Malbos consacrée à Harald Bluetooth, roi des Danois dans la seconde moitié du Xe siècle. L'ouvrage examine un souverain à la fois célèbre par son surnom, repris par une technologie contemporaine, et difficile à saisir par les sources. Harald est associé à l'unification du royaume danois, à l'affermissement de son autorité et à la conversion du pouvoir royal au christianisme. Plutôt que de combler les silences documentaires par des certitudes, l'autrice confronte sagas tardives, récits chrétiens occidentaux, inscriptions runiques, monnaies, aménagements et résultats de l'archéologie. Son objectif est donc double reconstituer, avec prudence, les grandes orientations d'un règne, et montrer comment le Danemark s'insère alors plus nettement dans les équilibres politiques, religieux et culturels de l'Europe médiévale. Il s'agit moins d'un récit héroïsant des Vikings que d'une enquête critique sur la construction d'un pouvoir royal scandinave. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, écrire une biographie malgré la rareté et la tardivité des sources. La principale difficulté du livre tient à son objet même. Harald à la dent bleue est important dans la mémoire danoise et européenne. Mais sa vie n'est pas documentée avec la continuité attendue d'une biographie moderne. Les textes qui le mentionnent ont souvent été rédigés plusieurs décennies, voire davantage, après son règne. Les sagas islandaises et les récits d'auteurs chrétiens occidentaux transmettent ainsi des traditions précieuses, mais aussi orientées par les préoccupations politiques, religieuses ou littéraires de leurs rédacteurs. Même l'origine du surnom à la dent bleue, attestée tardivement, demeure incertaine. Lucy Malbos fait de cette fragilité documentaire une donnée centrale plutôt qu'un obstacle dissimulé. Elle distingue ce qui peut être établi, ce qui relève d'hypothèses plausibles et ce qui reste inconnu. Cette méthode modifie la portée de la biographie. Il ne s'agit pas d'accéder artificiellement à l'intimité du roi, mais de comprendre les traces qu'un règne a laissées et les récits ultérieurs qui l'ont façonné. L'enquête révèle également une réalité plus large du haut Moyen-Âge scandinave. L'histoire des souverains se lit dans des archives fragmentaires, dont la valeur dépend de leur contexte de production. Le livre offre donc une réflexion concrète sur les méthodes de l'historien face à un personnage aussi emblématique qu'insaisissable. Deuxièmement, les pierres de Jelling et l'archéologie comme archives du pouvoir royal. Pour éclairer les lacunes des textes, Lucy Malbos mobilise les sources matérielles, au premier rang desquelles figurent les pierres runiques de Jelling. Elles constituent des témoignages exceptionnels sur la dynastie royale et sur la manière dont Harald entendait se présenter. La grande pierre de Jelling associe son nom à la conquête ou à l'unification des Danois et à leur christianisation. Elle ne fournit pas un récit exhaustif, mais elle exprime un programme de pouvoir. Son importance tient précisément à ce qu'elle est une inscription publique, installée dans un paysage monumental lié à la mémoire dynastique. L'archéologie permet aussi de replacer le règne dans des réalisations observables: forteresses circulaires, travaux routiers, systèmes défensifs et transformations de sites royaux. Ces vestiges ne prouve pas mécaniquement chaque intention personnelle d'Harald. Ils rendent toutefois visible la capacité d'organisation, de mobilisation des ressources et de contrôle territorial que supposent de tels chantiers. Le croisement entre runes, structures monumentales et données numismatiques aide ainsi à mesurer le passage d'une autorité royale contestée ou dispersée à un pouvoir plus affirmé. L'ouvrage montre que l'archéologie ne sert pas seulement à illustrer les chroniques, elle produit ses propres indices sur les formes concrètes de la royauté, l'administration des espaces et la mise en scène de la légitimité. Troisièmement, unifier le royaume des Danois par les infrastructures et la démonstration d'autorité. Harald apparaît dans le livre comme un acteur majeur de la consolidation du royaume des Danois. Expression plus juste qu'une projection trop simple de l'état danois contemporain, au Xe siècle. L'autorité royale ne s'exerce pas nécessairement sur un territoire aux frontières fixes ni au moyen d'institutions centralisées comparables à celles des époques ultérieures. Elle doit être rendue visible, négociée et défendue. Les constructions attribuées à son règne donnent une dimension matérielle à cette ambition. Le réseau de forteresses circulaires, dont plusieurs exemplaires sont connus au Danemark et dans le sud de la Suède, révèle une planification remarquable par l'uniformité de ces structures, l'entretien ou le renforcement du Danvirk, ligne défensive méridionale, et les améliorations des communications soulignent également l'importance stratégique des circulations et des frontières. La monnaie participe, elle aussi, à l'affirmation d'un pouvoir qui se présente comme capable d'ordonner les échanges. Ces éléments ne doivent pas être lus comme les preuves d'un contrôle total, les résistances locales et les rivalités dynastiques restent des données essentielles. Ils indiquent néanmoins que la royauté d'Harald se fonde sur des dispositifs durables, pas seulement sur le prestige guerrier. Le livre invite ainsi à comprendre l'unification comme un processus, elle associe symboles dynastiques, maîtrise militaire, organisation de l'espace et capacité à inscrire l'autorité dans des réalisations collectives. Quatrièmement, la conversion au christianisme comme choix de souveraineté face aux Ottoniens, la conversion d'Harald au christianisme, probablement située au début ou au milieu des années 960, constitue l'un des axes décisifs de l'ouvrage. Lucie Malbos évite de la réduire à une expérience spirituelle isolée ou à une rupture instantanée avec les pratiques antérieures. Le christianisme était déjà présent dans les mondes danois par les contacts commerciaux, les missions et les relations avec les puissances voisines. Toutefois, le baptême du roi change l'échelle du phénomène, la religion soutenue par le souverain peut s'implanter dans les structures du royaume et devenir un langage de légitimation. Cette décision s'inscrit dans un contexte de pression et de concurrence avec l'Empire ottonien. Othon Ier cherche à étendre son influence vers le nord, notamment par l'organisation d'évêchés, en adoptant lui-même le christianisme. Harald peut à la fois dialoguer avec les pouvoirs chrétiens et chercher à éviter que l'Église danoise ne devienne un simple relais de l'autorité impériale. La conversion relève ainsi d'une politique d'intégration sans soumission automatique. Elle ne signifie pas que le passé viking ou les références religieuses anciennes disparaissent immédiatement. Elle transforme plutôt les cadres dans lesquels s'exerce le pouvoir, les alliances et la représentation royale. Le livre met en évidence une leçon historique importante dans le Haut Moyen-Âge. L'appartenance religieuse est aussi un instrument diplomatique, institutionnel et territorial. En dernier lieu, de la mémoire médiévale au Bluetooth, une postérité construite et réinterprétée. L'ouvrage éclaire le contraste entre la célébrité mondiale du mot Bluetooth et la méconnaissance relative du roi dont il dérive. Le nom de la technologie renvoie à Harald parce qu'il évoque l'idée de relier des entités distinctes. Son logo combine les runes correspondant aux initiales H et B. Cette référence contemporaine ne constitue pas une simple anecdote publicitaire, elle invite à examiner les mécanismes de la postérité historique. Harald n'est pas parvenu jusqu'à nous sous la forme d'un portrait stable établi de son vivant. Sa mémoire a été transmise, remodelée et parfois mythifiée par des chroniqueurs médiévaux, puis par les usages savants, nationaux et culturels des siècles suivants. Les découvertes archéologiques de Jelling ont donné une assise nouvelle à cette mémoire en matérialisant l'ampleur du programme royal. La biographie de Malbos replace donc l'icône moderne dans son contexte, sans transformer le souverain en précurseur anachronique de la connectivité. Le lien pertinent est historique et symbolique. Harald a contribué à connecter plus étroitement le royaume des Danois au réseau politique et religieux de l'Occident chrétien. En distinguant ce que les sources permettent de connaître de ce que la mémoire collective a ajouté, le livre fournit aussi une lecture critique des usages actuels du passé viking. Il montre comment une figure médiévale peut être simultanément documentée, lacunaire, nationale et mondialisée. En conclusion, Harald a la dent bleue viking roi. Chrétien s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire médiévale, de Scandinavie et du monde viking qui souhaitent dépasser les images réduisant cette période aux raids, aux héros de saga ou aux clichés païens. Il intéressera aussi les lecteurs curieux de savoir ce qui relie réellement le nom Bluetooth à un roi danois du Xe siècle. Son bénéfice intellectuel principal réside dans l'apprentissage d'une lecture critique des sources. Lucie Malbos ne prétend pas résoudre toutes les incertitudes entourant Harald, mais explique comment des inscriptions, des chroniques tardives et des vestiges archéologiques peuvent être confrontés avec méthode. Cette prudence donne au livre une valeur qui dépasse son sujet particulier. L'ouvrage se distingue des synthèses généralistes sur les Vikings par le choix d'une biographie problématique, centrée sur un souverain dont la documentation est ténue, mais dont les réalisations ont laissé une empreinte matérielle majeure. Il ne traite pas la christianisation comme l'effacement soudain d'un monde nordique autonome, ni l'unification danoise comme la naissance déjà accomplie d'un État moderne. Il restitue plutôt des processus graduels, marqués par la concurrence avec l'Empire ottonien, l'affirmation dynastique et l'organisation concrète du territoire. Par l'alliance d'une écriture accessible et d'un usage attentif de l'histoire, des runes et de l'archéologie, ce livre propose une porte d'entrée solide vers les transformations de la Scandinavie au Xe siècle et vers les méthodes mêmes de l'enquête historique. Si vous souhaitez soutenir Lucie Malbos, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.